c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous n'avons pas le choix et c'est une chance. Nous devons nous désintoxiquer des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. C'est grâce à elles que nous avons réalisé la révolution industrielle, mais c'est fini. Le climat de la planète ne peut plus les supporter, ce qui modifie notre environnement et de toute façon, elles vont devenir trop chères. Il faut donc apprendre à faire sans pour nous déplacer, nous nourrir ou consommer de l'énergie. Ça s'appelle la transition et les 2200 habitants du village d'Ungersheim dans l'est de la France l'ont bien compris. Depuis 2009, sous l'impulsion de leur mère, ils expérimentent une vie presque sans pétrole. La réalisatrice Marie-Monique Robin a fait un magnifique film qui sortira le 23 novembre. Qu'est-ce qu'on attend ? Elle sera notre invitée tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La transition est urgente et le rapport Planète Vivante, publié tous les deux ans par le WWF, est là pour nous le rappeler. Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Alors, faut pas que vous touchiez trop votre micro, sinon ça s'entend. Vous êtes le directeur de WWF France. Alors, allons-y franchement, hein, la version 2016 de ce rapport est angoissante.
Elle est angoissante parce qu'elle révèle un chiffre qui, effectivement, nous saisit d'effroi, c'est que le vivant sauvage sur la planète, c'est-à-dire les papillons jusqu'aux gorilles, en passant par les éléphants ou les abeilles, c'est-à-dire toutes les espèces qui ne sont pas domestiquées par l'homme, eh bien, ont été diminuées de plus de moitié, 58% exactement, entre 1970 et aujourd'hui. Ça veut dire que sur la moitié d'une vie humaine, la moitié des animaux sauvages ont disparu de la planète. Ça ne veut pas dire que la moitié des espèces ont disparu, mais ça veut dire que là où il y avait 10 papillons, il n'y en a plus que 4 ou 5. Là où il y avait 10 éléphants, il n'y en a plus que 4 ou 5 en moyenne. Et quand on détruit les habitats, on va venir sur les causes, évidemment, quand on détruit les habitats des espèces, de fait, on détruit les espèces.
Donc, je le disais, c'est angoissant parce qu'en plus, les projections montrent que ça ne va pas s'arranger.
Alors, pour la première fois, ce rapport donc, fait une projection jusqu'en 2020 et on arrive à un chiffre évidemment pire encore, qui est moins deux tiers des vertébrés sauvages sur la planète aura disparu.
Non mais deux tiers, ça veut dire, c'est énorme.
Ça veut dire qu'encore une fois, il y a plusieurs enjeux, plusieurs grilles de lecture de ça. La première, je pense qu'elle est d'abord éthique et morale. C'est-à-dire au nom de quoi l'espèce humaine s'arroge le droit de détruire plus de la moitié et demain les deux tiers du reste des espèces vertébrées sur la même planète que nous partageons en commun. Qu'est-ce qui nous donne ce droit ? Donc, c'est la première question, elle est, je pense, morale, éthique, et elle interroge chacun d'entre nous, et je pense qu'elle est justifiée. Deuxième angle, c'est l'angle, je dirais, plus intéressé, c'est-à-dire, est-ce que nous aussi, on est en risque ? Est-ce que ça
oui,
nous met en risque, cette évolution ?
On pourrait se dire, et alors, finalement ?
Exactement. Et donc, c'est là où le rapport développe ce que le WWF appelle le capital naturel, avec d'autres, bien évidemment. C'est, le capital naturel, c'est quoi ? C'est que finalement, les services rendus gratuitement par la planète, le fait que les forêts, en poussant, stockent du carbone, le fait que les océans recyclent le carbone, le fait que les systèmes hydriques font que non seulement on a de l'eau potable, et ensuite ils permettent de dépolluer naturellement un certain nombre de sols en captant des polluants que nous mettons dans les sols. Tous ces services qui sont rendus gratuitement, progressivement, ils sont en train de se dérégler. Et c'est la deuxième partie du rapport, qui est que plus on va stocker, plus on va puiser dans ce capital naturel, ben c'est comme un compte en banque, plus on va diminuer le capital qui est sur son compte en banque, et à un moment donné, quand ça tend vers zéro, ça s'appelle la faillite. Aujourd'hui, on est en train de tendre vers une faillite écologique, au sens où nous puisons tellement dans les écosystèmes, nous mangeons tellement, nous dilapidons tellement notre capital naturel, qu'on parle d'océan, de forêt, de climat, de biodiversité, quels que soient les indicateurs, que la planète est progressivement sur le chemin de la faillite écologique.
Et puis, dans ce rapport, il y a des schémas et on se rend compte que non seulement, comme vous le disiez, on va vers une augmentation de ce phénomène, mais même une accélération. Il y a des graphiques qui sont très clairs, qui prouvent que depuis 2000, il y a une accélération en termes de consommation d'engrais, d'émissions de dioxyde de carbone, de consommation de poissons, de tout. tout type de consommation ?
Alors, le focus de ce rapport, avoir présenté ce que je viens de vous dire, c'est de mettre l'accent sur l'alimentation. Vous parlez des poissons, par exemple. Nous mangeons aujourd'hui trop de poissons. Nous pêchons aujourd'hui trop de poissons, mais pour la première fois, on commence à pêcher moins de poissons. D'une part, parce qu'on commence à organiser, pas assez, mais on commence à organiser des systèmes de quotas. On l'a vu pour le thon rouge en Méditerranée, où on a été capable, grâce aux bonnes décisions politiques, à la pression des ONG, de faire en sorte que quelques années de maîtrise de la ressource fassent que la ressource reparte, parce que la nature, elle fait bien les choses. Quand on la laisse tranquille, les animaux repartent. Si on ne les pêche pas avant qu'ils aient eu le temps de se reproduire, ils se reproduisent. Si on les pêche avant qu'ils aient eu le temps de se reproduire, évidemment, la ressource disparaît. Mais à côté de ça, il y a le fait qu'il y a effectivement de moins en moins de poissons. Et donc, depuis quelques années, la pêche, en dehors de l'aquaculture, eh bien, la pêche commence à diminuer. Et quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, l'intérêt économique des pêcheurs, qu'on oppose parfois aux intérêts écologiques et environnementaux, et parfois certains lobbies se plaisent à le faire, eh bien, en moyenne durée, ils sont évidemment alignés, ces intérêts. Parce qu'encore une fois, là où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Mais le rapport montre aussi un élément important, c'est que si nous sommes une partie du problème à travers notre consommation et notre alimentation, nous sommes de fait, si on change, une partie de la solution. Donc c'est important de prendre conscience, chacun d'entre nous, que voilà, cette grande évolution dans laquelle nous sommes et qui fait que plus de la moitié du vivant vertébré a disparu sur une demi-vie humaine, il y a une toute petite part de responsabilité qui est en chacun d'entre nous. Sur l'alimentation, c'est universel. Tout le monde mange. Aujourd'hui, le canal de transmission, en quelque sorte, c'est quoi ? Ben, c'est que si je mange de la viande, je mange de la viande qui est nourrie avec du soja. Le soja, il pousse où ? En Amérique latine, notamment au Brésil, en Amazonie. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le soja ? Il y avait les forêts tropicales. Et donc, en mangeant de la viande aujourd'hui en France, je contribue à ma petite échelle, mais je contribue à une chaîne mondiale, à une division mondiale du travail, à un système économique qui a mis à bas l'Amazonie. Et donc, je peux très facilement, une fois par semaine, deux fois par semaine, changer pour aller dans le bon sens.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Fosse embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E o sonho da cobra verde hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. E a renégua quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de Pascal Canfin, aujourd'hui directeur du WWF France, à l'occasion de la publication du rapport Planète Vivante 2016 qui nous alerte à nouveau sur la vitesse de la dégradation de notre environnement partout sur la planète. Alors je vous propose par exemple d'aller au Cameroun, dans la zone forestière montagneuse de Makbetchou, c'est là que vivent les derniers gorilles de la rivière Cross, une espèce en voie d'extinction, il n'en reste que 350 dans le monde. L'ONG RUDEF a donc décidé en 2014 de créer une aire protégée, le Tofala Hills Wildlife Sanctuary. Alice Milo a essayé d'apercevoir quelques grands singes en compagnie de la biologiste Baldwin qui travaille pour l'association.
From here on, Voilà, à partir de maintenant, on entre dans la réserve naturelle. À partir d'ici, c'est donc une zone protégée et les populations locales ne sont pas autorisées à y mener des activités comme la chasse, la culture. Auparavant, il y avait une forte pression de la part des chasseurs, mais aussi des agriculteurs qui ont transformé la forêt en zone agricole. Les fermiers ont coupé plein d'arbres pour y installer des plantations de bananes, de coco ou de plantains. Même les grands singes étaient vus comme de la nourriture. C'était normal de les tuer pour les manger. On donnait même un titre honorifique à celui qui tuait un gorille. Voilà quelle était la situation quand l'ONG Erudef est arrivée ici.
Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui les dégâts qu'il y a eu sur les grands singes de cette forêt ?
Il y a 4 ans, on pouvait trouver jusqu'à 1000 cartouches dans la forêt. Ça donne une idée de la pression que les hommes exerçaient sur les animaux de la forêt. Aujourd'hui, on pense qu'il y a encore 60 à 70 chimpanzés et seulement 15 à 20 gorilles.
Est-ce que parmi les moments où vous faites ces expéditions, est-ce que pendant vos expéditions, il vous arrive de croiser des pièges que les chasseurs auraient posés ?
Oui, on en voit beaucoup. Et quand on en trouve un, on le détruit.
C'est juste un fil de fer, hein, c'est ça ?
Oui, ils sont utilisés pour de petits animaux. Mais cela peut être très néfaste pour les chimpanzés, notamment pour les petits. Le morceau de fer s'enfonce dans les pieds ou dans les mains des chimpanzés. Ça me rend vraiment triste. S'il leur manque un pied, par exemple, ils ne peuvent pas aller aussi vite que tous les autres, grimper aux arbres, et il se fera facilement attraper par un chasseur.
Est-ce qu'on va avoir une chance peut-être de voir des gorilles et des chimpanzés aujourd'hui ?
Il va falloir croiser les doigts, mais c'est vraiment difficile. Pendant très longtemps, ils ont été chassés, et donc ils ont peur des humains. Dès qu'ils nous entendent, ils s'enfuient. Nous pensons que si la pression que les hommes exercent sur eux baisse, ce sera plus facile de les voir.
L'association Erudef fait partie du programme des petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial géré par le comité français de l'UICN. Pascal Canfin, on entend à travers ce reportage les efforts qui sont demandés aux populations locales pour changer leurs habitudes, alors que ce sont quand même des populations pauvres qui vivent de la chasse, on l'a entendu. Bref, on leur impose finalement ce que nous avons été incapables de faire, nous, dans les pays industrialisés.
C'est pour ça que, d'une part, il faut que nous, on change nos propres politiques. C'est très bien que la France se batte pour protéger les éléphants en Afrique ou les gorilles, mais c'est très bien aussi qu'elle réintroduise l'ours, par exemple, dans les Pyrénées.
Ça ne se fait pas sans mal.
Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas, alors que pour la première fois, les éleveurs locaux, les acteurs économiques locaux, sont en train de changer d'avis et de se dire, finalement, ça peut valoriser le territoire, ça peut avoir un impact positif pour nous. Donc d'abord, c'est faisons ce qu'on demande aux autres de faire, faisons-le nous-mêmes. Or là, on est effectivement dans une sorte de discours un peu facile où on
protégeons
demande
les espèces
en
sauvages,
Afrique
mais
de
en
protéger
Afrique.
Les éléphants, mais de ne pas le faire chez nous. Deuxième élément, c'est, après cette mise en cohérence, c'est effectivement de trouver les compromis qui sont nécessaires, et le WWF est complètement là-dessus en disant, attention, il ne s'agit pas de mettre sous cloche, il s'agit de trouver les modes de cohabitation qui sont soutenables. Soutenables pour les animaux sauvages, mais soutenables aussi pour les êtres humains. Et l'essentiel des prises de gorilles, d'éléphants, de rhinocéros ou d'autres espèces emblématiques, c'est pas pour de la consommation locale, c'est pas du braconnage local. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de cible. Ce sont essentiellement c'est du braconnage organisé. Vous savez que c'est le 4e plus gros trafic illégal au monde. Et que derrière, ils sont consommés où ces animaux, non pas en termes d'alimentation, mais en termes de corne ou en termes d'ivoire ou en termes de fourrure ou autre chose. Ils sont consommés dans les pays du Nord et notamment de plus en plus en Asie, ce qui concerne les rhinocéros et les éléphants, avec la Chine et le Vietnam. Et donc nous, notre stratégie, elle est double. Elle est d'une part mettre en place les politiques locales en Afrique, notamment pour trouver les bonnes cohabitations qui assurent la soutenabilité de l'activité économique humaine, le développement et la soutenabilité des autres espèces. Et par ailleurs, sur le pilier de la demande, de lutter contre la consommation, les habitudes un peu absurdes qui consistent à penser que si on a la corne de rhinocéros, eh bien, on va se sentir mieux. Tout le monde sait que c'est pas
Il suffit de manger ses ongles, mais c'est pareil.
Mais c'est comme ça. Et donc, on lutte. Voilà, on fait, par exemple, au Vietnam, on a un gros programme très intéressant. On travaille avec des VIP, des acteurs, des stars de la télé vietnamienne, pour qu'elles-mêmes disent aux gens qui les regardent et qui leur font confiance un petit peu, changer de croyance, changer de coutume et laisser les rhinocéros tranquilles.
Et alors, au-delà du trafic des espèces sauvages, il y a quand même l'impact aussi qui est très différent entre les pays riches et les pays pauvres. Le WWF relève... Le WWF relève chaque année ce qu'on appelle la date de dépassement, hein, qui avance de plus en plus. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire, cette date de déplacement, ce phénomène qui s'amplifie.
Alors, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, la planète renouvelle naturellement, gratuitement, sa capacité à nous fournir des services. La forêt pousse gratuitement, l'océan se régénère gratuitement, etc. Donc, stocke du CO2 gratuitement. Mais dans une certaine limite. Lorsqu'on coupe plus d'arbres qu'ils n'en poussent, ça fait de la déforestation. Lorsqu'on pêche plus de poissons qui sont capables de se reproduire, ça fait de la surpêche et à la fin, il y a moins de poissons. Donc, il y a un moment donné où on atteint la limite et on dépasse la limite de la planète à fournir gratuitement des écosystèmes.
Ce qu'on appelle la biocapacité humaine, de la Terre.
En termes techniques, tout à fait. Une fois qu'on l'a dépassé, on puise dans ce stock de capital. Et on ne tombe pas à zéro immédiatement, mais chaque année... on détruit du capital naturel et on dégrade la capacité de la planète à rendre ses services dits écosystémiques en termes techniques. Et donc, le WWF et le Global Footprint Network mesurent tous les ans la date à partir de laquelle on dépasse la capacité de la planète à fournir gratuitement ses écosystèmes. Donc, c'est en quelque sorte le seuil de soutenabilité. Eh bien, aujourd'hui, en 2016, nous sommes en dette écologique, c'est-à-dire que nous puisons dans ce capital naturel sans le renouveler, depuis le 8 août. Lorsque le WWF a commencé à travailler sur ces sujets il y a une trentaine d'années, on était sur le mois de décembre.
Alors, est-ce que ce n'est pas lié aussi à l'incroyable croissance démographique humaine ?
Alors, ça, c'est un débat qu'il ne faut pas occulter, mais en même temps, qui n'est pas la priorité. C'est vrai qu'on est 7 milliards, demain 8, 9, peut-être 10, courant du 21e siècle. Si on occupe tout l'espace, forcément, on occupe l'espace des autres. Donc, on artificialise les zones humides, on coupe les forêts, etc. Maintenant, quand on regarde ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire la pression qu'un humain exerce sur l'environnement, elle est tellement différente entre un Américain, un Australien, un Saoudien d'un côté et un Nigérian, un Indien ou un Camerounais de l'autre, qu'on est sur un rapport de 1 à 10, voire plus. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment poser la question de la croissance démographique, il n'y a pas de tabou à avoir. En même temps, l'empreinte écologique aujourd'hui qui reste soutenable, c'est encore dans les pays en développement qu'on la trouve. Donc, ce ne sont pas les Africains ou les Indiens qui sont responsables de l'état de la planète. Mais en revanche, effectivement, la question de est-ce qu'ils vont être les derniers à se développer comme nous, à base d'énergie fossile, à base de consommation de produits importés du bout du monde, ou est-ce qu'ils vont trouver un mode de développement qui est en phase avec les enjeux du 21e siècle, notamment les enjeux énergétiques et climatiques. Et donc, au lieu d'être le dernier continent à s'industrialiser comme nous, version 19e, 20e siècle, l'Afrique et l'Inde, d'ailleurs, sera le premier continent à se développer sur le mode du 21e siècle. C'est une question qui reste entière. L'accord de Paris va évidemment dans le bon sens, en ce sens. Mais ce sont les élites et les peuples africains et indiens qui ont la responsabilité de ce choix. Ce n'est pas à nous de leur imposer. En revanche, nous, on doit balayer devant notre porte et faire en sorte que lorsqu'on a des technologies, on puisse les partager, par exemple.
Eh bien, j'imagine que l'on en parlera à Marrakech lors de l'ouverture de la COP 22 lundi prochain. Merci Pascal Canfin d'être passé dans C'est pas du vent. Le rapport Planète vivante et sa synthèse sont en ligne. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous serons avec la réalisatrice Marie-Monique Robin pour son nouveau film « Qu'est-ce qu'on attend ?» Une belle leçon de transition écologique. À tout de suite.